Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast du blog mespremièresruches.com, le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Z. Je m'appelle Guillaume et je suis apiculteur depuis 2017. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Mathieu, un apiculteur opportuniste. Opportuniste car il est devenu apiculteur car un essaim est rentré dans son jardin. Mathieu vous racontera comment il a capturé cet essaim, qu'il a vu en plein vol s'installer dans son jardin. Il vous expliquera également sa conception de l'apiculteur chasseur-cueilleur et comment il s'est formé à l'apiculture dans une file d'attente.
Pour te présenter, tu t'appelles Mathieu.
Oui.
Tu as quel âge ?
J'ai 59 ans depuis quelques semaines.
D'accord. Et quand est-ce que tu as pensé à l'apiculture et à partir de quand tu as commencé à y penser plus sérieusement ?
Alors, ça fait très longtemps que l'apiculture me tente. C'est un vieux souvenir d'enfance, j'avais 10-12 ans à peu près, et un de nos voisins avait des ruches. Il m'a invité un jour pour me montrer le moment de l'extraction du miel. J'ai gardé un souvenir merveilleux, c'était un monsieur qui était très âgé à l'époque, et j'ai gardé un souvenir merveilleux de cette ambiance. On faisait ça avec son jardinier, puisque lui c'était un grand bourgeois, donc c'était pas lui qui faisait, mais ça l'amusait beaucoup. Et c'était un loisir de grand bourgeois qui faisait son miel avec son jardinier.
Il était où ?
C'était à Irigny, juste à côté de chez nous, donc j'habite à côté de Lyon. À partir de ce jour-là, l'histoire m'a tenté, en fait. Et puis, j'ai rien fait pendant 50 ans. Sauf qu'il y a quelques années, à l'occasion des encombrants dans la région lyonnaise, les gens mettent tout leur fourbi sur le trottoir deux ou trois fois par an. Et là, un jour, en rentrant à la maison, le soir des encombrants, je vois une ruche posée sur le trottoir.
Complète.
Ruche, enfin, avec un toit et tout.
Ouais.
La petite ruche chalet, comme celle qu'on a tous un peu dans notre imaginaire. Et je me dis, bon, je m'arrête, je mets la ruche dans le coffre en me disant, un jour, s'il y a un essaim qui arrive à la maison, comme ça, j'aurai une ruche. Et ça s'est produit pendant le confinement. Il y a un essaim qui est arrivé pendant qu'on était en train de bricoler dehors. Et donc, du coup,
tu l'as vu arriver ?
Oui, c'est-à-dire qu'on était en train de travailler dehors et on entend tout d'un coup le vrombissement. En plus, pendant la période du confinement, il y avait très peu de bruit. Donc, tout d'un coup, on a vraiment entendu le vrombissement des abeilles. C'est pas la première fois que je voyais un essaim, donc j'ai assez vite repéré qu'il y avait un grand mouvement d'abeilles qui se faisait autour de nous. On les a vues toutes monter sur le toit. Donc la maison est assez haute, il y a 3 étages. Donc on est parti comme des fous dans l'escalier pour arriver sur le toit en même temps qu'elles. Et on arrive et à ce moment-là, elles étaient toutes en train de s'engouffrer dans une souche de cheminée. Il y a beaucoup de cheminées sur le toit de la maison. Et je ne sais pas pourquoi, il y a une cheminée qui attire les abeilles. Il y a quelques années, on avait déjà eu un essaim qui s'était installé sans qu'on s'en rende compte. Et on avait eu beaucoup de peine à le chasser pour récupérer pour continuer à faire du feu. Mmh. Et là, donc, ils étaient tous en train de rentrer dans le même conduit. Peut-être est-ce qu'il restait une odeur de cire, de miel, je ne sais pas. Qui les a attirés. Donc, on a fait du feu, on a mis des ifs tout verts. Et en même temps, j'avais fait une espèce de canne à pêche avec l'écouvillon qui nous sert au ramonage. Et donc, on les emmerdait dans le conduit pour qu'elles aient pas envie de s'y installer. Donc, au bout de 10 minutes, elles sont reparties. On a vu l'essaim repartir. Voilà. Il a tourné un peu. Il est revenu se remettre dans le même trou. Donc, on a recommencé. On a remis du feu. Et finalement, petit à petit, on voyait qu'il y avait des abeilles qui cherchaient autre chose. Pendant que l'essentiel des insectes était dans la souche, on en a vu qui commençait à rentrer à travers les lames de plastique d'une espèce de verrière,
ouais,
qui couvre une partie du toit. Et donc et elle commençait à se rentrer dessous. Et puis au bout d'un moment, on a vu que l'essaim se déplaçait, il sortait de la cheminée et il allait se mettre là. Et là,
c'était à quelle période de la journée, le matin ?
C'était vers 5 heures.
Vers 5 heures, ok.
À peu près, c'était une très belle journée, il y avait beaucoup de soleil, il n'y avait pas beaucoup de vent. Enfin, c'était, pendant le confinement, on était tous assez disponibles.
Il faisait quelle température à ce moment-là ?
Il faisait bon. On voit bien, pendant le confinement, c'est un moment où la température était agréable, 22, 23 degrés, c'est-à-dire ni chaud ni froid. Et donc, quand on a compris qu'elles allaient s'installer, là, on a arrêté de les agacer, on les a laissées rentrer. Et à ce moment-là, je suis allé voir sur Internet, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment est-ce que je récupère ce truc-là ? Donc j'ai regardé un peu sur internet. Je fais toujours très attention parce que il y a beaucoup d'informations justes sur internet, mais il y a aussi beaucoup de gens qui écrivent, enfin, qui postent n'importe quoi. Donc j'ai essayé de repérer des gens qui me paraissaient sérieux, plus fiables que d'autres.
Sur des blogs en général?
Ma source, c'est vraiment les sites de vidéos. Donc quand les gens mettent des tas de tutoriels, alors voilà, du meilleur comme du pire. Ouais. Quand j'en ai trouvé deux ou trois qui disaient des choses que je trouvais raisonnables et qui se ressemblaient, je me dis bon, là, il y a une chance que ça soit, que je puisse me fier dessus. Donc je me suis fabriqué une espèce de cagoule avec une moustiquaire que j'avais achetée pour faire un garde-manger, un petit garde-manger. Donc c'était pas, donc il y avait un vieux canotier, c'est une grande maison dans laquelle il y a tout un tas de bardas. Donc on a pris un canotier, on a mis autour de la moustiquaire, j'ai pris des gants pour la vaisselle, j'avais une combinaison en T-Wek pour peindre, j'ai mis des bottes, et puis avec un balai on a un balai en crin de cheval, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert les balais en crin de cheval, mais on a une petite balayette en crin de cheval, je trouvais que c'était cool pour les abeilles, ça me paraissait naturel. Donc je suis parti avec un pchit à vitre dans lequel on avait mis de l'eau, un carton, puis je suis rentré, puis j'ai fait tomber les abeilles dans mon carton. Ça s'est très bien passé, elles étaient vraiment très tranquilles.
T'as pas enfumé par exemple?
Non, j'avais rien pour enfumer, donc je n'ai pas essayé d'enfumer. Je les ai un peu mouillés parce que ils expliquaient dans ces vidéos que ça donnait de la cohésion à l'essaim. Et puis comme elles étaient un peu emboîtées dans les poutres, j'ai espéré que j'avais fait tomber la reine. Oui. Donc j'ai posé mon carton là, j'ai découpé une petite porte grande comme le doigt et on a tout fermé jusqu'au lendemain. Et le lendemain, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus personne dans les poutres, je me suis dit, elles sont dans le carton. Oui. Ça veut dire que la reine est dans le carton. Donc voilà, c'est comme ça que ça avançait. Et puis la difficulté, c'est que ma ruche, j'avais la caisse, mais il n'y avait rien dedans. Donc,
aucun cadre, rien du tout.
Non.
D'accord. Donc là, c'est le début de l'apiculture.
Et oui.
Ouais. Et donc, tu as beaucoup pour l'instant. Après, tu t'es un peu. Enfin, tu as continué de te former sur Internet. Ou est-ce que tu as des amis apiculteurs qui te donnaient des conseils?
Alors, en fait, comme j'avais pas de cadre, j'ai cherché que c'était le confinement. Je me suis dit, je ne peux pas acheter, je ne vais pas trouver de magasin ouvert. Donc j'ai téléphoné, j'ai regardé sur les pages jaunes, j'ai trouvé un apiculteur pas trop loin de chez moi. Et j'ai appelé le gars en lui racontant mon histoire. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez des cadres pour ma ruche? Il m'a dit, mais c'est quoi comme ruche? Je ne sais pas, c'est une ruche du trottoir. Donc il m'a dit, venez. Donc j'ai attendu la fin de la journée pour essayer de ne pas rencontrer les poulets. Et j'ai mis la ruche dans mon coffre et on est parti chez lui. Et c'est là qu'il m'a expliqué, c'est une ruche d'Adam. Il m'a montré, il a tout passé au chalumeau, parce qu'il m'a dit que c'était pas fini. Enfin voilà, que normalement au bout de 3-4 ans, il n'y avait plus de problème, mais que c'était plus prudent de la désinfecter correctement. Donc il me l'a tout passé au chalumeau, il m'a expliqué le pain brûlé, l'odeur du bois brûlé, machin. Et il m'a vendu une série de cadres qu'il avait préparés pour lui.
Et voilà. Avec déjà la cire dessus.
Il m'a préparé les cadres avec la cire dessus. Il m'a prêté un enfumoir. Et il m'a dit, vous vous débrouillez, vous faites tomber vos abeilles là-dedans, vous fermez. Et puis, assez vite, essayez de vous débrouiller pour leur trouver pour les nourrir avec du sucre. Parce qu'un essaim qui s'installe, il ne va pas tout de suite être opérationnel. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut bâtir les rayons, la colonie est encore toute petite. Donc il m'a dit, si vous voulez que ça démarre correctement, il faut que vous... Il m'a donné l'adresse d'une coopérative apicole en me disant, ils sont ouverts le vendredi soir, tous les vendredis soirs pendant le confinement, ils sont ouverts 2 heures. Allez-y, vous pourrez vous équiper du minimum pour démarrer. Quoi.
Ouais. D'accord, et donc là, tu as acheté du sirop et...
Alors non, je n'ai pas acheté de sirop. J'ai acheté un nourrisseur. J'ai acheté un petit outil pour déboîter les cadres. J'ai acheté une voilette.
Un lève-cadre, oui.
Un lève-cadre. J'ai acheté une voilette. Et puis, entre-temps, en regardant toujours les tutoriels, j'avais compris que en fait, la partie du miel qui serait pour moi serait dans une hausse. Donc, j'ai acheté une hausse et le système un peu de cire, du fil inox, la petite molette pour... faire gondoler le fil et puis des feuilles de cire pour pouvoir construire quelques cadres pour une hausse. Et puis les fameuses languettes, j'ai eu de la chance, j'arrivais le jour où ils distribuaient les languettes pour le Varroa.
Ah, d'accord, donc
j'ai acheté. Ouais, donc j'ai acheté mes languettes. Et là, en fait, la file était interminable parce que toute la semaine, ils devaient faire toutes les affaires de la semaine en 2 heures. Ouais. Donc dans la file, j'ai interrogé tous les gens qui étaient là. Donc je me suis fait une petite formation express sur les trucs les plus élémentaires pour. Voilà.
Ok. Ouais, sacré début quand même. Un peu dans la.
Ouais,
l'occasion s'est présentée et après.
Oui, voilà, j'ai foncé.
Oui.
Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Je me suis dit, les abeilles viennent. Ouais. Voilà, si je ne commence pas aujourd'hui, je ne commencerai jamais.
Ouais. Ah oui. D'accord. Et là, actuellement, tes abeilles sont toujours là?
Alors, les abeilles ne sont pas parties. J'ai nourri la colonie pendant 3 semaines, 1 mois. Après ça, en surveillant assez régulièrement la construction sur les cadres de la ruche elle-même, du corps de ruche, avec l'implantation d'un couvain, donc tout ça, toujours pareil, en regardant les photos et autres, ça me paraissait aller bien. J'ai toujours pas vu la reine, je sais, ou peut-être je l'ai vue, mais je ne l'ai pas reconnue. Et puis au bout d'un moment, j'ai enlevé la languette du Varroa et les nourrisseurs. Et j'ai mis ma hausse et j'ai attendu, ça s'est fait à la fin du mois de mai, et j'ai attendu jusqu'à il y a une semaine pour voir si je pouvais faire une récolte. J'ai pas beaucoup ouvert ma ruche, d'abord parce que j'avais plutôt envie de leur foutre la paix en me disant de toute façon si j'ouvrais, soit je voyais que ma colonie était moribonde et je savais, je suis pas prêt à me lancer dans une opération vétérinaire lourde. Voilà, je suis un peu opportuniste dans cette histoire-là. J'avais ma ruche, il y a des abeilles qui arrivent, je tente le coup, ça marche, je suis très content, ça marche pas, ben voilà.
Toi aussi. Okay.
Et en fait, quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte que les abeilles n'avaient pas du tout investi la hausse, que par contre le corps lui-même était plein de miel avec des
rayons. Tout était construit, les 10 cadres étaient...
Ah oui, les 10 cadres, il y a un cadre qui n'est pas tout à fait complet.
En extrémité?
Oui, à un bout. Alors, c'est très drôle parce qu'apparemment, il paraît que les abeilles partent du milieu. Moi, elle est partie d'un côté. Elle a commencé par bâtir d'un côté et elles ont avancé.
Ouais.
D'un côté à l'autre de la ruche. Et le dernier cadre, il y a encore des lacunes dessus.
Okay.
Mais les autres sont très chargés avec des rayons qui sont très épais, qui se touchent.
Ah oui.
L'interstice entre les deux cadres est presque, enfin, dans certains cas, est presque complet.
Okay.
Et donc les cadres sont très très chargés. Ouais. Mais il n'y a rien dans la hausse. Donc je vais voir, tu me dis qu'elles n'y monteront plus maintenant. Moi j'espérais qu'à l'autre. Enfin, souvent à Lyon, le septembre est très beau. En ce moment, il y a des cyclamens sauvages qui poussent de partout dans les prés. Et je me suis dit, peut-être que cette floraison, plus le lierre, peut-être que cette floraison va permettre. On a toujours des lauriers roses aussi,
ouais.
Mais elles butinent très peu sur les lauriers roses. Peut-être est-ce que ce n'est pas une fleur qui les intéresse.
Oui, peut-être d'autres pollinisateurs. Parfois, il y a le bourdon qui est surtout intéressé par certains et les abeilles n'y vont jamais. Je vois pour les courges, c'est le cas, il me semble. Okay.
Voilà.
Et pour l'instant, combien de temps t'y vas dans le mois? Combien de temps t'y passes?
Alors, au début, j'y suis allé tous les 15 jours.
Ouais.
Parce que je voulais voir comment ça grandissait. Mmh. Et quand j'ai vu qu'elles étaient bien installées, j'ai arrêté. Et pendant 2 bons mois, alors la ruche est contre la maison. Donc je passe devant plusieurs fois par jour. Mmh. Je vérifie qu'il y a toujours du monde qui rentre et qui sort.
Ouais.
Je remarque depuis qu'il fait chaud, depuis la dernière semaine de juillet, qu'il y a beaucoup d'abeilles dehors.
Ouais.
Toute la journée, elles sont beaucoup dehors et il faut attendre que le soleil soit couché pour qu'elles rentrent. Mmh. J'ai fait attention à ce qu'elles aient de l'eau. J'avais mis un bol avec un bout de bois qui flotte, ouais. et de temps en temps, je mets de l'eau.
Elles y vont? Tu les vois?
Je sais pas.
Ouais.
Mais bon, il y a d'autres points d'eau dans le jardin.
Mmh.
Donc, et je les ai beau. Il y a un petit abreuvoir entre autres qui est à 80 mètres de la ruche. Et là, j'avais remarqué qu'il y avait tout le temps des abeilles dans
okay.
l'abreuvoir.
Ouais. Merci.
Mais comme il était un peu à sec, c'est pour ça que je leur avais mis un bol. Voilà, j'y vais pas beaucoup. J'ai pas envie d'être très interventionniste,
ouais,
en fait.
C'est pas ta démarche.
Non, en fait, je suis pas du tout un apiculteur au sens où on l'entend. C'est-à-dire que pour moi, un apiculteur, c'est quelqu'un qui est un professionnel, qui c'est l'agriculteur des abeilles, donc quelqu'un qui est tenu par une rentabilité et qui du coup met en œuvre des moyens qui sont vraiment ceux de quelqu'un qui exploite une ressource, même si elle est naturelle.
Alors comment tu te définirais alors si tu
dis Moi, je suis un bricoleur
qui est curieux
qui trouve l'histoire hyper sympathique et qui a envie que... Et moi, ce qui m'amuse, c'est de récolter... Enfin, je suis un chasseur-cueilleur. Voilà. Alors, pendant longtemps, pour récolter le miel, on détruisait la ruche. Bon, maintenant, ça n'a plus de sens. Mais je reste dans cette démarche-là. Je suis un vrai chasseur-cueilleur. Puis, j'essaye de faire un peu le minimum pour que quand même ça marche et que je ne vais pas faire comme si on n'avait rien inventé depuis 20 siècles. Mais ça me fera encore plus plaisir si mon miel, il arrive comme ça.
Ouais.
Et si j'en ai moins, c'est pas très grave. De toute façon, moi, avec si un jour je fais un kilo, c'est le Pérou, c'est génial. J'en demande pas plus.
Et je voulais savoir, pour l'apiculture, est-ce que... Enfin, donc, tu as connu ça étant petit. Est-ce qu'au fur et à mesure des informations que tu as, est-ce que tu as une conception de l'avenir de l'apiculture en France? Quelle avis tu as de l'apiculture en France?
Ce que je comprends, c'est que c'est vraiment... C'est une activité dans laquelle cohabitent des gens à tous les niveaux d'investissement. Comme les gens qui font du maraîchage. C'est-à-dire qu'il y a le gars qui a 5 plants de tomates le long de sa maison et il a acheté les plants dans une jardinerie et il les arrose, voilà. Et il est content de manger 3 poignées de tomates cerises à la mi-août. Et puis à côté, il y a des maraîchers qui ont des serres, qui amendent leur sol, bio ou pas bio, avec des gens qui cherchent des rendements maximum ou d'autres qui au contraire essayent qui vont tout mettre sur le goût et donc essayer de sortir des productions avec des qualités gustatives et autres les plus élevées possibles. Et entre, il y a des amateurs à tous les niveaux. Il y a des amateurs que... On racontait l'histoire hier, on parlait d'un gars qui est un amateur, c'est-à-dire c'est pas son gagne-pain, même si ça lui rapporte de l'argent. Ouais. Il a 100 ruches qui sont connectées par...
Ouais,
il a 100 ruches qui sont connectées par Internet, qui sont posées sur une balance. Il fait des transhumances et ensuite, il regarde, il surveille la montée en poids des ruches. Enfin,
et c'est un amateur.
Et c'est un amateur, c'est-à-dire qu'il a un autre... C'est un amateur dans la mesure où il a un autre métier à côté de ça, qui est son activité principale. Et puis il y a moi à l'autre bout qui suis chasseur-cueilleur comme le gars qui a... Et je pense que d'abord tout le monde a sa place parce que c'est une activité dans laquelle il y a une part de plaisir qui est énorme. Évidemment pour moi, peut-être un peu moins pour le pro qui lui est... c'est comme chaque fois qu'on... Dans tous les métiers, on sait qu'il y a 80% de transpiration et de labeur ingrat et puis 20% de plaisant et qui fait qu'on continue, qui est la partie satisfaction du métier.
Ouais.
Donc j'imagine que les apiculteurs, c'est pareil.
Ouais.
Quand ils se sont soulevés 200 ruches dans la journée pour les mettre dans la camionnette, ils en ont plein les reins et ils se demandent s'ils ne vont pas se mettre au tricot. Ouais. On a besoin de tous ces gens. Et je crois que ce serait une grosse erreur de voir l'apiculture comme quelque chose qui doit fonctionner sur un modèle unique. On a la chance d'avoir une activité qui s'accommode très bien de modèles aussi variés. Et j'ai envie de dire, tel que je l'imagine, en n'y connaissant rien.
Ouais.
Mais c'est cette variété qui est le meilleur avenir de l'apiculture.
Ouais. D'accord.
Avec des gens comme moi qui en ont une, toi qui en ont 3, un amateur qui en a 100, un pro qui en a 400. Voilà.
Comme je dis, c'est beau d'avoir cette proximité entre les amateurs et les pros. Chacun trouve un peu son équilibre par
exactement.
Rapport à son nombre de ruches.
Voilà, il n'y a pas de compétition et les gens sont sur des objectifs hyper différents.
Ouais.
Moi, si jamais ça ne marche pas, parce que je ne vais pas pouvoir... J'ai plein d'autres choses qui m'occupent. Je vais pas pouvoir m'y consacrer comme un amateur très sérieux ou un pro. Donc peut-être que ça va foirer. Je ne vais peut-être pas arriver à faire survivre mes abeilles. Ou enfin bon, il y a voilà, c'est pas très grave. En tout cas, je me serais bien marré.
Et après, est-ce que tu ne penses pas que justement, c'est pas parce que plus on intervient et plus ça marche, mais plutôt mieux on intervient et mieux ça marche, dans le sens où si on fait bonnes actions au bon moment, ou par exemple, on arrive à développer son regard en voyant la ruche, de dire, bah, par exemple, là, clairement, elle manque de nourriture, ou là, l'état sanitaire n'est pas très bien, donc ensuite adapter ce qu'on va faire, plutôt que d'ouvrir chaque semaine, et là, on a trop d'informations, et il n'y a pas forcément une corrélation. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre le nombre de fois où on ouvre la ruche, et ensuite la rentabilité qu'on a derrière, enfin le retour qu'on a derrière.
Je ne suis pas assez expérimenté pour avoir un avis ferme. Mais je pense que là encore, on revient à des pratiques qui sont différentes. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est un peu derrière ta question, c'est la question du bien-être animal. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je la comprends. Et c'est une chose qui est importante. Il ne faut pas croire que les hommes sont forcément source de mal-être pour les animaux. Quand on connaît par exemple, j'ai grandi dans des endroits où il y avait des vaches et des animaux. Et je me souviens à la fois d'exploitations agricoles dans lesquelles il y avait des vaches en relativement petit nombre et qui étaient conduites de façon assez traditionnelle, et puis des exploitations qui étaient vraiment industrielles. Je pense à des exploitations où on élevait du cochon ou des poulets, qui étaient, même si depuis on a fait beaucoup plus, parce que mes souvenirs ils ont une quarantaine d'années, où on était déjà dans des logiques vraiment industrielles. Les industriels étaient très peu présents auprès des animaux. Et pourtant, je pense que les conditions de vie de ces animaux n'étaient pas très bonnes. Alors que les éleveurs traditionnels, ils sont très près de leurs animaux, ils les voient plusieurs fois par jour, pour les pousser ou pour les retenir, pour les traire, pour les soigner, pour les emmener au champ, quelquefois pour leur donner les fouetter un peu pour les faire avancer. Donc, je ne crois pas qu'il faut établir une corrélation entre le nombre de contacts et le bien-être de l'animal. À partir du moment où c'est un animal qui est domestique, il est normal qu'il soit en contact avec des hommes. Et si l'action des hommes est mesurée et adaptée, j'ai envie de dire bienveillante, l'animal n'en souffre pas. Donc voilà, c'est plutôt d'avoir, je pense que c'est plutôt d'avoir une conduite des ruches qui soit, voilà, qui ne perturbe pas l'animal. Et ça, je ne sais pas, est-ce que le fait d'une petite visite, une visite de 3 minutes toutes les semaines, est-ce qu'un bon pro qui connaît parfaitement ses gestes, qui est très précis, très rapide, qui sait exactement tout de suite où il faut aller, lui il passe toutes les semaines et il a emmerdé ses abeilles 1 minute 30. Moi qui suis maladroit, qui ne sais pas bien ce qu'il faut regarder, hein, quand je les ouvre, je dois les embêter beaucoup plus, ça dure plus longtemps, j'y vais pas souvent, mais en fait je les enquiquine beaucoup. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je crois qu'il ne faut pas être dogmatique dans ces trucs-là.
D'accord. Pas faire forcément ce lien entre le nombre de fois où on va les voir et l'approche qu'on a.
Non, parce qu'en même temps, si on y va régulièrement, on a aussi une vision dans la continuité et claire de l'état de la ruche. Donc, s'il y a une réponse à apporter, elle peut être meilleure et plus rapide.
Ok.
En fait, on est vraiment fait pour vivre avec la nature. Donc quand on vit avec les animaux, si on fait ça bien, on les embête pas.
Si on fait ça bien.
Voilà.
Si on vient bien après.
Toute la question est faire ça bien.
Ouais.
Mais il faut pas croire que nous sommes forcément. C'est un des aspects que je trouve agaçant d'une vision écologiste actuelle qui considère l'homme forcément comme un ennemi de la nature et des animaux, et qui considère que l'homme est un prédateur. Moi, je considère que l'homme est un jardinier. Et donc, son rôle, c'est d'embellir. Et pour embellir, il faut respecter. On travaille la nature pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même.
Ouais. On ne peut pas laisser la nature faire.
Si,
il doit y avoir, enfin, il doit y avoir quand même une intervention de l'homme.
Pas forcément, mais à partir du moment où on s'en occupe, voilà.
Oui.
Voilà. Et les forêts vierges se passent de nous, ça pose aucun problème, mais c'est des endroits magnifiques.
Oui.
La haute montagne, on s'en occupe très peu et ça se passe très bien. Mais il y a aussi toute une partie de, On fait partie de la nature. Nous sommes des êtres naturels. On est avec la nature. Donc, quand moi, je touche une abeille, c'est un homme naturel qui touche une abeille naturelle. Je ne suis pas un être de synthèse. Donc, je suis aussi naturel que l'abeille, la laitue ou la vache.
D'accord. Et j'avais une dernière question à te poser sur, par rapport à ceux qui débutent ou qui souhaitent débuter l'apiculture. Quel conseil tu donnerais un peu pour les aider?
Bah, je suis tellement débutant que je n'ai pas de conseils à donner. Je veux dire, allez-y de façon à ne pas vous faire mal déjà, oui. Parce que les abeilles, ça pique.
Et qu'il n'y ait pas d'urgence, toi tu as mis quand même 40 ans avant de commencer vraiment.
Ouais,
parce que l'occasion s'est présentée.
Ouais.
Mais on prend de son temps?
Non. Enfin, il faut le faire de façon à se sentir en confiance. Voilà, je crois que c'est ça. Okay. Les abeilles, ça pique, ça fait peur aux voisins et aux gens de la famille. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de drame.
Ouais. Voilà. Souvent, on oublie que l'abeille peut être mortelle.
Ouais, il en faut beaucoup quand même. J'ai regardé, mais...
Oui, il en faut une centaine. Ouais.
Ah, mais alors, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il en fallait beaucoup plus pour tuer un homme.
D'accord.
C'est de l'ordre de milliers.
Un millier.
Pour tuer un homme.
D'accord.
Moi, l'autre jour, je m'en suis pris une bonne. J'ai eu de la fièvre pendant un moment et je me suis. J'en ai bien profité. Mais voilà, je ne me suis jamais senti en danger non plus.
Oui. D'accord. Mais c'est pas la même chose que d'élever des poules. Les poules ne vont pas nous menacer autant que peuvent le faire les abeilles. Ça reste avant tout. Ouais,
okay. Non, honnêtement, j'ai pas de conseils à donner aux gens à part d'être prudent pour ne pas se faire mal.
Oui.
Okay. Après. Il n'y a pas d'enjeu. Enfin, alors il y a des gens qui achètent des essaims, je pense que ceux-là, ils se préparent un peu. Parce que quand on met 150 balles dans un essaim, voilà, on a envie que ça marche. Mais moi, le truc arrive tout cuit dans ma ruche. Voilà, j'essaye. Alors je prends des infos, c'est comme ça qu'on en a parlé. Hein. Comme je ne sais rien, j'essaye de m'enseigner avec tout le monde.
Et on dit souvent qu'il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs. Donc là aussi, tu en entends toutes les couleurs un peu.
Oui, c'est pas gênant. Ouais. Ça fait partie du charme de la chose.
En tout cas, ce qui est pas mal, c'est que comme tu as des abeilles qui ont essaimé à un endroit de ton jardin, eh bien le bon risque, c'est que les autres années, il y ait d'autres essaims qui viennent au même endroit.
Alors c'est le deuxième essaim qui vient.
C'est le deuxième, d'accord.
Le premier essaim qui est passé, il a été, on a appelé un apiculteur qui est venu le chercher. Il était beaucoup plus gros. C'était un super essaim. Et puis on a un nid dans un mur qui est tout fissuré.
Oui.
Et on a un nid d'abeilles qui doit être assez puissant parce
D'accord.
qu'il y a une activité terrible autour. Comme il est sur un mur qui est mitoyé avec des voisins, on nous a demandé de le détruire. On lui a envoyé une rincée d'insecticides. Quelques semaines après, il était reparti.
D'accord.
J'imagine qu'il doit être caché très profondément.
D'accord.
Est-ce que c'est cet essaim-là, ce nid-là qui essaime? C'est possible.
Oui. Ok. D'accord.
J'avais peur qu'il y ait des phénomènes de pillage entre les deux. En fait, non, apparemment pas.
Oui. Très bien. Eh bien, bravo pour tes débuts en tout cas.
Non, bah, je m'amuse bien. Et puis, alors, cette année, rien, pas une goutte de miel pour moi. J'espère que l'année prochaine, il y aura quelque chose qu'on pourra mettre en pot.
Il y aura l'épreuve de l'hiver. Et là, c'est pas léger. Il y a quand même 33% de perte environ.
Ah oui.
Ouais. Ouais, c'est l'hiver, vraiment le test de l'apiculteur.
Ah ouais, bah, je vais essayer de retrouver un coin à l'abri du vent et où le soleil vienne chauffer la ruche quand il y en a pendant la journée. Et puis je crois que je vais leur donner du sirop, je vais faire du sirop pour que
sirop lourd,
pour qu'elles soient. Mais en même temps, la ruche, il y a beaucoup de miel dans le corps de la ruche.
D'accord.
Donc je pense qu'elles ont de quoi tenir.
Ok. D'accord.
Donc, ma curiosité, ce serait d'arriver à repérer la reine.
Ça c'est bien difficile, même pour les pros. Ouais.
Ah bon, j'avais l'impression que il y a beaucoup de gens qui les repéraient comme ça du premier coup. Non, d'accord.
Ouais, très difficile.
Elle n'est pas très différente des abeilles des ouvrières.
Non, non. C'est juste l'abdomen qui est un petit peu plus long.
Mais elles sont tellement empilées en général que.
Et en plus, le pire, c'est que ça bouge.
Mais voilà.
Donc parfois, elles se déplacent.
Oui, et puis il faut la distinguer parmi toutes les abeilles qui sont là.
Ouais.
Parce que parfois, elle est pas. Enfin, quand on regarde le cadre et qu'on le retourne, ça se trouve, elle est sur la tranche du cadre.
Ouais.
Non.
Alors les gars, ils les peignent.
Oui.
Mais pour la peindre, il faut la trouver.
Oui. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu.
Et alors, j'ai une question.
Oui.
L'abeille, la reine que j'ai là, c'est forcément une reine de l'année?
Pas forcément. Ça peut être une... Ça dépend. Soit c'était une reine qui était dans une ruche et elle ne se plaisait pas et l'ensemble de la ruche a essaimé. Soit c'est des abeilles qui ont élevé... Enfin, c'était dans un essaim... les abeilles, une partie des abeilles ont voulu élever une nouvelle reine et donc là, une partie de l'essaim est partie. Donc, pas forcément une reine de l'année.
D'accord.
Et en fait, il faut la voir pour le voir. Enfin, déjà, si elle a pu voler, c'est qu'elle est en bon état. Normalement, une reine qui a 3 ans, la plupart ont des ailes
sont
qui peuvent être un peu atrophiées, oui.
Qui se sont usées. Ou...
Oui. Avec les frottements avec les autres abeilles. Il y a des chances que ce soit une reine de l'année, mais c'est pas une certitude.
Mais c'est pas une certitude. Oui. D'accord. Bon, et ben merci.
Merci Mathieu.
Je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous faites partie des 20% des auditeurs qui aident à aller jusqu'au bout de ce podcast et je vous en félicite. Vous faites partie des personnes qui veulent apprendre. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à vous abonner. Je suis présent sur Deezer, Apple Podcasts et Spotify. En allant sur mon blog mespremièresruches.com, vous êtes libre de recevoir le guide de l'apiculteur débutant dans lequel je vous apprends les bases de l'apiculture. J'explique comment maîtriser les 4 saisons de l'apiculture et je vous donne également des conseils pour éviter les erreurs qui coûtent cher, comme l'essaimage, la ruche morte ou également le varroa. Et en plus, je vous donne 7,5 conseils redoutables pour devenir un meilleur apiculteur. Je vous invite à partager ce contenu aux groupes et forums d'apiculteurs que vous connaissez, cela m'aidera beaucoup à croître. Si vous avez des questions, des idées de sujets ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit dans cet épisode, je vous invite à m'envoyer directement un email à guillaume@mespremièresruches.com. Je lis tous les emails et cela me permettra de mettre à jour les épisodes à venir. Enfin, si vous voulez, comme Mathieu, partager en tant qu'invité sur le podcast, vous êtes apiculteur amateur, apiculteur professionnel ou également représentant d'un métier pour lequel l'apiculture est primordiale, contactez-moi directement par email à guillaume@mespremièresruches.com. À bientôt !